Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Je suis avec Tristan Rouleau, qui est un scénariste de bande dessinée, un scénariste canadien, qui publie aux éditions du Lombard un album qui s'intitule « Chronique diplomatique Iran 1953 ». Le sous-titre est important, puisque je pense qu'il y en aura d'autres. Donc on commence déjà une belle série. Un bel album inhabituel dans la production BD, puisque c'est de la géopolitique, de l'histoire internationale, avec de l'économie, des espions, avec pas mal de choses. On va parler de ça ensemble, mais avant toute chose, question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire, qui es-tu ?
Alors, bonjour déjà, moi je m'appelle donc Tristan Rouleau, je suis donc scénariste de bande dessinée depuis à peu près une quinzaine d'années. J'avais commencé par Goblins aux éditions Soleil, qui est une BD d'humour, du style à la jeunesse. Avant ça, j'ai fait du droit, avant ça j'étais journaliste. Et puis je suis arrivé au Lombard avec une série qui s'appelle Hedge Fund sur la crise des subprimes. Et puis depuis, j'ai fait quelques albums, on va dire plus réalistes, dont Chronique diplomatique, même si il m'arrive encore de m'aventurer dans des domaines plus de science-fiction avec fantasy, comme avec Le Convoyeur dernièrement au Lombard.
Alors comment on passe d'un album de fantasy, un album très imaginaire, à des choses très, très dures, très existantes? J'ai envie d'employer ce mot parce que c'est celui qui me vient pour ce nouvel album. Quelle est la passerelle entre les deux mondes ?
La passerelle, c'est déjà un intérêt pour un sujet. Et donc, autant quand je fais des gags pour Goblins, il y a l'envie de faire rire, l'envie de se faire plaisir aussi. Autant quand je fais Chronique diplomatique ou Hedge Fund, il y a l'envie pour moi de comprendre le monde et éventuellement de le transmettre, de le dévoiler comme moi j'ai pu le comprendre, ensuite au lecteur de le vulgariser finalement.
Alors la vulgarisation, elle est génialement faite dans Chronique diplomatique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? C'est une histoire bien connue, j'allais dire, par ceux qui la connaissent. Mais c'est une histoire capitale pour comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que ces événements de 1953 ont des répercussions encore actuellement. Quelle est l'histoire ? Comment ça commence ?
Alors, ce qui est formidable avec ce récit, c'est que c'est un récit historiquement très factuel, très documenté, puisque la CIA a ouvert ses archives il y a quelques années. Donc on peut vraiment avoir le déroulé historique assez linéaire des opérations. Et finalement, c'est le premier coup d'État extérieur des États-Unis, de la CIA, qui venait tout juste d'être créé. Et voilà, ils sont aventurés à se dire, bon, on va renverser un gouvernement par de la propagande, par tout un tas de d'opérations plus ou moins secrètes. Puisque le cœur du sujet, c'est... Le cœur de l'enjeu, c'est le pétrole iranien et qui va l'exploiter. Et le premier ministre de l'époque, donc le docteur Mossadegh, lui avait récupéré son pétrole, avait chassé les Anglais qui l'exploitaient et se demandait comment maintenant il allait pouvoir le commercialiser alors qu'il n'avait pas forcément les compétences techniques pour le faire. Donc voilà, arrivent les Américains dans le jeu, qui essayent au début de jouer un rôle d'arbitre un petit peu international pour finalement se ranger complètement du côté des Britanniques et renverser le premier ministre.
Oui, parce qu'il faut expliquer que depuis qu'on a découvert du pétrole en Iran, mais aussi en Arabie Saoudite et dans tous les pays du Moyen-Orient, à la fois les compagnies anglaises, américaines, un petit peu français, mais quand même en deuxième rideau, ont l'exclusivité de l'exploitation pétrolière. Donc ça génère des sommes absolument colossales. Et en même temps, c'est aussi un argument, un outil de pouvoir mondial.
Et c'est ça, et on est en pleine, on est dans le contexte de la guerre froide, et donc il y a les Russes qui sont pas loin, donc il y a aussi ce problème de débouché du pétrole iranien, et il n'y a pas seulement la ressource elle-même qui est importante, il y a l'argent qu'elle procure et qui peut garantir ou non l'indépendance du pays en question. Donc dans le cadre de l'Iran, qui rêve d'indépendance, avoir la main sur son pétrole, c'est s'affranchir de toutes les autres hégémonies. Et ça, finalement, avec Eisenhower aux USA, ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Donc il faut se ranger du côté des Américains ou être contre les Américains. Et il avait trop peur, du coup, que ça bascule du côté russe.
L'autre chose qui est intéressante, parce que maintenant on a un peu oublié tout ça, c'est très loin pour nous, et puis l'histoire de l'Iran, on la connaît pas forcément très bien. Quelle est la situation politique en Iran? Parce que c'est important, ça.
Eh bien, justement, c'est une démocratie, une vraie démocratie, avec un parlement élu, un premier ministre validé par la population, et le Shah d'Iran, qui deviendra le Shah qu'on connaît par la suite et qui sera renversé par Khomeini, qui est en gros la royauté, mais un peu une royauté de plus en plus honorifique, un peu comme peut l'être la reine d'Angleterre. Et avec un premier ministre qui est lui très moderne et des aspirations très démocratiques, qui essaye de le pousser un petit peu loin de la politique. Et lui le prend un peu personnellement mal, parce que son père était un tyran et un véritable dictateur. Donc il se sent un petit peu comme un descendant un peu faible. Et donc il va se servir quelque part de l'appui des États-Unis pour asseoir son autorité. Le Shah d'Iran, c'est quelqu'un qui est très, au niveau caractère, très flou. Très très flou. Il surfe sur les événements. Et il n'a pas de trajectoire claire. C'est clairement pas un stratège. Sa sœur, par contre, est beaucoup plus complexe et va avoir une influence aussi sur lui énormément.
Est-ce que tu peux nous dire de mots sur ce fameux docteur Mossadegh, Premier ministre, dont on dit qu'il recevait des gens dans son lit, parce qu'il y a beaucoup de photos de lui en pyjama?
C'est ça, c'est un personnage très très rocambolesque, très romanesque en fait. Déjà, c'est un grand idéaliste. Il a fait ses études en Europe, donc il a goûté vraiment à la démocratie européenne. Et voilà, il s'imagine, l'Iran a d'immenses ressources, est un pays arriéré par sur plein de plans, notamment économiques et scientifiques et industriels. Donc il va avoir besoin d'autres puissances pour développer cet aspect-là. Mais au niveau de son caractère, oui, c'est quelqu'un de très qui s'émeut très facilement, qui s'emporte qui reçoit les gens un peu comme il se sent ce jour-là. Il va pas faire beaucoup d'efforts. Il peut pleurer aussi, ça a choqué beaucoup les Américains, il peut pleurer si quelque chose l'émeut en public. Donc un personnage vraiment très attendrissant au final.
Oui, je disais des choses sur lui avant de qu'on se rencontre. Il peut pleurer, mais il peut faire aussi semblant de s'évanouir. C'est une espèce de comédien politique exceptionnel.
Exactement, ce qu'on appellerait aujourd'hui une drama queen. Parce que voilà, il se met en scène, et il est très. Et en même temps, c'est un stratège redoutable. Il a été capable de faire de dévoiler des stratégies qui s'opposaient à lui, d'éliminer ses rivaux. D'une certaine manière, il est très impitoyable aussi. Donc ça fait un personnage ambivalent, très intéressant à creuser.
On ne va pas raconter toute l'histoire, parce que d'abord il faut lire l'album, c'est quand même le principal intérêt, mais on évoquait au début les conséquences de ce coup d'État, qui ont encore des résonances actuellement, puisqu'on peut dire que ce qui se passe en Iran, avec l'arrivée de Khomeini, les otages américains dans l'ambassade, donc cerné par des centaines de moudjahidines, il y a une cinquantaine d'otages, je ne sais plus le nombre exact, mais c'est une sorte de vengeance iranienne sur ce coup d'État.
Alors c'est exactement, puisque à partir du moment où les États-Unis finissent après, et c'est ce qu'on raconte dans l'album, le coup d'État, il est compliqué. C'est malgré tous les dollars qui ont été investis, il a deux doigts de rater, il rate plus ou moins, il repart. Bon. Et finalement, le Shah d'Iran revient comme une star, mais et à ce moment-là, l'Iran va être sous perfusion américaine au niveau des dollars, et notamment sa police spéciale, sa police secrète, qui va éliminer tous les rivaux. Et les religieux vont être progressivement mis un petit peu à l'écart et vont pas le supporter. Or, l'Iran reste quand même du temps de Mossadegh, une société très très religieuse, et ça va ressurgir comme un serpent de mer finalement un peu plus tard, et tout balayer en fait. Donc, cette révolution provoquée par les Américains va être leur plus mauvaise presse finalement encore aujourd'hui.
Oui, parce qu'on peut, même si on va loin, 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 que les problèmes des talibans, tout ce qui va se passer après la révolution iranienne, c'est des queues de conséquences de cette affaire.
Tout à fait. Ben, il y a cette espèce de néocolonialisme dont aujourd'hui tous les peuples qui l'ont subi essayent de s'affranchir et finalement considèrent l'Occident comme un ennemi et un danger permanent du fait de cette histoire qui est encore une fois parfaitement démontrée. C'est bien ce qui s'est passé. Il y avait un gouvernement politiquement légitime qui a été renversé par une puissance extérieure. Ça laisse des traces.
Oui, et surtout, comme on le disait avant d'enregistrer l'émission, c'est une très courte vue qu'ont eu les Américains, mais aussi les Anglais, mais aussi les Français, parce que tous les alliés occidentaux sont assez d'accord avec ce qui se passe. Quoi.
Oui, c'est-à-dire que le coup d'État est vraiment un coup d'État avant tout britannique et américain. Vraiment, les deux ont investi plusieurs millions de dollars pour réussir ça, en subornant des députés, en achetant des journaux locaux. Enfin, on peut voir par le menu tous les ressorts qu'ils ont pu utiliser pour justement rallier la population à leur cause, ou au moins flouter un peu les directions. C'est-à-dire qu'à un moment dans cette histoire, le peuple ne sait plus à quel sein se vouer. Les signaux sont complètement dissonants, qui a raison, qui a tort, et on est en plein dans ce qui se passe aujourd'hui avec les fake news. C'est vraiment, quasiment, on pourrait parler du début des fake news. La propagande a toujours existé, mais là, le fait d'acheter des journaux pour délivrer un message opposé au message réel, ça c'est quelque chose qui était quand même assez nouveau.
Donc il faut parler de l'album, parce que l'album, il y a quelque chose qui n'existait pas forcément dans l'histoire vraie du coup d'État de 1953, c'est les deux personnages qui conduisent l'histoire. Bon, c'est des Français, deux diplomates français. On va parler de ces deux diplomates, notamment du couple qu'ils forment, parce que c'est quand même un couple assez inédit dans la bande dessinée en général, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Qui sont-ils et d'où viennent-ils ces deux gaillards ?
C'est amusant parce qu'avec Christophe, donc Christophe Simon, le dessinateur, on voulait revenir un petit peu aux sources de la bande dessinée franco-belge avec un duo de héros, un peu comme Blake et Mortimer finalement, ou Tintin et le Capitaine Haddock. C'est-à-dire avoir la tête et les jambes, le héros un peu neutre avec son partenaire qui a plus de caractère et donc qui fait plus d'erreurs aussi. Donc avoir un duo comme ça qui est un petit peu nostalgique et un petit peu ironique si on veut, et donc voilà, et donc on a notre jeune ambassadeur Jean Darvan qui est vraiment idéaliste, plein de grandes idées, un ancien résistant, et puis son acolyte. Ils ont tous les deux passé le concours d'Orient, mais il y en a un des deux, on racontera plus tard cette histoire, mais qui a laissé sa place à l'autre, et du coup ils ont fait un pacte tous les deux pour rester ensemble quoi qu'il arrive, et donc on va les trouver un peu comme des sortes de diplomates pompiers qui vont être envoyés sur des différents théâtres d'opération et puis essayer de gérer la position de la France sur différentes
pour écrire ces personnages. Tu t'es renseigné sur la diplomatie, sur qu'est-ce qu'un ambassadeur, comment ça réagit, comment il s'insère dans...
Alors oui, j'ai déjà beaucoup lu sur des mémoires de diplomates par exemple. J'ai la chance d'avoir un frère qui travaille au Quai d'Orsay et qui a pu me donner des petits trucs, des petites anecdotes un peu croustillantes que j'ai ou non intégrées dans l'album, qui trouvaient plus ou moins leur place. Mais et puis surtout qui a pu vérifier, surtout si je disais pas de bêtises, d'erreurs de protocole qui auraient été un peu choquantes. Donc tout ça, on va dire, est validé. Mais surtout, j'ai eu accès aux archives déclassifiées du Quai d'Orsay avec toutes les communications de l'ambassade de l'époque et de l'ambassadeur François Coulet, donc qui précisait la position de la France par rapport à tous ces événements-là. Donc je me suis d'ailleurs affranchi. Si, je dirais la position de la France sur ce conflit-là était très très subalterne, secondaire. Vraiment. La chose la plus importante, c'est finalement que les Anglais ayant été chassés vraiment du sol iranien, eh ben, les services secrets du MI6 repassent par les services français pour avoir de l'info. Donc la France fait finalement le relais qui a disparu. Mais le coup d'État est organisé depuis Chypre. Donc voilà, entre eux, la France ne fait pas partie de cette opération-là. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est d'avoir justement des héros qui sont plus spectateurs de l'histoire. Ils ont un rôle actif, ils essayent de gérer leur position, la position de la France, notamment par rapport au pétrole, avec l'envoi d'ingénieurs, peut-être de récupérer le pétrole pour le retraiter via des entreprises françaises. Tout le monde essaye de tirer un peu les marrons du feu, donc c'était ça qui était intéressant à développer.
Parce qu'ils ont un regard très bienveillant. envers Mossadegh, envers l'Iran, c'est eux, ce sont des démocrates, et donc ils vont essayer de tout faire pour les aider, en tout cas, même s'ils n'y arrivent évidemment pas. Mais ça, c'est, je trouvais ça assez touchant, et c'est un ressort qu'on a envie d'avoir dans ce genre de bande dessinée, d'avoir des gentils.
Exactement, c'était vraiment un retour. J'ai fait quelques bandes dessinées justement avec des héros plus réalistes, on va dire, c'est-à-dire plus cyniques peut-être, voire même des anti-héros. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir au héros positif des années 50, le vrai héros de bande dessinée, avec des idéaux, qui se battait contre, qui aidait les faibles, et se battait contre le fort, et sans craindre les conséquences. Et donc voilà, et c'est ce qu'on a là avec notre jeune ambassadeur qui va finalement essayer de sauver plus ou moins la démocratie iranienne. Tout en lui-même étant peut-être joué par d'autres forces en présence.
Oui, c'est ça, on ne sait pas très bien ce qu'il manipule.
Voilà.
Parce que visiblement, il est aussi manipulé lui, par des forces.
C'est ça, il n'a pas forcément toutes les informations non plus. Donc, il essaye de voir un peu dans ce micmac comment vivre en accord avec ses valeurs.
Alors, quand on lit le dossier de presse, on a l'impression qu'ils ont un rapport très... très tendre, très charnel tous les deux.
Alors justement, bah ça c'est quelque chose qu'on va laisser plus ou moins à l'interprétation du lecteur. Mais voilà, on sent que c'est un duo qui partage une très forte amitié, au minimum.
Alors il faut aussi parler du dessin, parce que le dessin de Christophe Simon est très particulier. Enfin, pas très. Non. Il faut qu'on parle du dessin, même si le dessinateur n'est pas là. Christophe Simon qui dessine cet album et cette série. Un dessin qu'on peut appeler classique, mais qui n'est pas tout à fait classique non plus, mais on a à la fois la sensation d'une bande dessinée très moderne, et en même temps d'être replongé dans un vieux Spirou, presque dans un Oncle Paul, enfin on a cet équilibre qui ajoute encore au charme de l'album.
Comment dire, moi j'avais envie de faire justement une BD de géopolitique avec ces histoires d'ambassadeurs, par sortir un peu de la pub Ferrero et des je sais plus c'est quoi les trucs de l'ambassadeur, je sais pas. Bref, et donc voilà, mais moi j'imaginais remonter peut-être plus, encore peut-être 50 ans avant. Peut-être avant la Première Guerre mondiale, avec un côté encore plus exotique, encore plus aventure, plus Maharaja, plus tout ça. Mais Christophe m'a révélé avoir une vraie passion pour les années 50, les voitures, les tenues, etc. Donc bah, naturellement, à ce moment-là, on a reporté le regard à cet endroit-là. Et donc il y a ce trait qu'il a, qui est un trait très académique. Des morphologies, des anatomies, des visages, et avec un dessin réaliste extrêmement abouti, très précis, tout en douceur. Faut le voir dessiner en dédicace au crayon, c'est magnifique. Et qu'on retrouve et qui donne justement cette petite saveur particulière à l'album, tout en ayant une narration, je dirais, moderne, actuelle, rythmée, comme un thriller politique d'aujourd'hui.
Parce que c'est académique, mais ça bouge. Il y a de l'action, il y a de la baston, il y a des morts, il y a de satire. Ça...
On est dans du James Bond géopolitique.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du James Bond réaliste.
Voilà, exactement.
Donc, Chronique diplomatique, Iran 53, c'est le premier volume. J'imagine qu'il y en aura d'autres.
Ouais, pour le tome 2, on va partir en 1954, donc l'année suivante, où... Suite aux événements d'Iran, bah, notre ambassadeur va être un petit peu mis sur la touche, envoyé dans un pays où, a priori, un petit peu loin des théâtres d'opérations brûlants. Et finalement, bah, pas tout à fait, puisque c'est justement l'émergence du bouddhisme comme religion d'État là-bas. Et comment, justement, donc on va revenir justement en Birmanie sur ce qui conduit jusqu'aujourd'hui à la junte qui a pris le pouvoir et... au massacre des Rohingyas, et donc voilà, revenir aux sources toujours.
Mais donc à chaque fois, on a des allers-retours entre l'histoire et l'actualité.
Exactement. Essayer de comprendre les sources, parce que aujourd'hui, en écoutant les informations, c'est pas évident toujours de comprendre d'où viennent les racines. Donc là, voilà, en proposant une BD assez divertissante, on suit des aventures et des coups d'éclat, et en même temps, bah, ça naît de là, les Rohingyas, et ils s'appelaient pas les Rohingyas à l'époque. Pourquoi? Quel est le rôle du jade, par exemple, dans l'économie birmane. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre le reste. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça.
Est-ce que vous allez les faire revenir en Europe à un moment donné?
Alors ça, c'est une possibilité. Pour l'instant, c'est vrai que je cherche plus à à explorer le monde, on va dire. Je trouve que ça permet aussi à Christophe de plus déployer son talent, de faire des architectures un petit peu exotiques, c'est intéressant. Amérique du Sud, peut-être aussi, pour changer de continent. Mais c'est sûr que... Alors, on revient souvent en France, mais soit au début des albums, soit à la fin des albums. Donc, mais de faire le terrain de jeu, que ce soit la France, peut-être plus tard.
Mais c'est vrai que le dessin, pour revenir au dessin de Christophe, tu parlais des costumes et des voitures, mais pareil, les architectures, les décors de rue, les décors iraniens, les intérieurs de cafés, de palais, tout ça c'est assez merveilleux parce qu'il y a des milliards de détails en plus. C'est très, comme tu disais, très précis, c'est très fouillé. Et il y a plein de cases, des fois on a envie de les voir plus grandes même.
Mm-hmm. Mais ça, moi, il faut voir sur quel format il dessine. Il dessine, je crois, c'est du double raisin, c'est-à-dire des pages qui font presque un mètre de haut. C'est incroyable à regarder. Et chaque case est l'objet d'une documentation folle pour, pour avoir la note juste.
Ça se voit.
Ouais.
Bah, Tristan, je te remercie. On s'est dit plein de trucs sur Chronique Diplomatique. Pas mal d'infos. Maintenant, il reste à lire l'album qui est publié, je le rappelle, aux éditions du Lombard. Alors là, pour la première fois, je n'ai pas le prix, mais ça doit être 14,90 ou quelque chose comme ça. Ça fait 58 pages, comme tous les albums. Et voilà, je te remercie.
Eh ben merci à vous.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.